c'est la journée internationale contre la monoculture d'arbres. En quoi consiste cette pratique et quelles sont ses conséquences environnementales et sociales? Ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invitée, Emeline Heuth. Bonjour.
Vous êtes la coordinatrice du groupe Forêt de l'ONG Les Amis de la Terre qui participe à cette campagne internationale. Alors pourquoi une journée internationale sur la monoculture des arbres?
Alors c'est un nom un petit peu complexe et en fait l'idée de départ c'était de l'associer à la journée de la paix parce que les populations locales rencontrent d'énormes conflits sur place en fait.
Parce qu'aujourd'hui c'est la journée de la paix des Nations Unies.
Voilà, et donc il y a vraiment des conflits sur place à cause des plantations et l'idée c'était de s'associer à cette journée de la paix pour avoir un peu plus d'écho sur le plan international, puisque c'est un problème très local et qu'on en entend très peu parler. Donc la monoculture des arbres, qu'est-ce que c'est? Peut-être que j'explique ça pour commencer. C'est simplement des plantations à grande échelle d'une seule essence d'arbre. Donc ça se répand énormément à l'heure actuelle dans tous les pays d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, en Afrique équatoriale, en Indonésie, en Malaisie. Et alors l'idée en fait c'était de, face à tous les problèmes que les gens rencontrent dans ces pays-là, c'était d'unifier un mouvement pour que les pays du Nord en reçoivent l'écho.
Oui, parce que le problème c'est que les consommateurs aujourd'hui qui bénéficient des conséquences de cette monoculture d'arbres dans leurs produits de consommation n'en ont absolument pas conscience.
Non. Et donc c'est le World Rainforest Movement qui est un mouvement des forêts tropicales qui essaye d'unifier un peu toutes ces forces, toutes ces associations locales, ces ONG locales pour lister tous les problèmes rencontrés et puis le faire relayer donc par d'autres associations comme les Amis de la Terre.
Alors, c'est des grandes exploitations, genre palmiers à huile, EVA, eucalyptus, etc. C'est vrai que c'est un phénomène assez récent, finalement, parce qu'avant, on n'avait pas ces immenses plantations comme on en voit aujourd'hui dans le sud-est asiatique, par exemple, avec l'EVA.
Oui.
Avec le palmier à huile, je veux dire.
Alors, avec le palmier à huile, ça dépend, en fait, des essences dont on parle. Le palmier à huile, oui, ça a été un boom ces dernières années, notamment dans l'agroalimentaire, en fait. Donc,
faites le lien, palmier à huile.
Palmier à huile, donc production d'huile. Mmh. Et c'est d'une huile, en fait, l'Europe, par exemple, est le premier importateur mondial d'huile de palme. L'huile de palme, on en retrouve dans tous les produits qu'on achète dans les supermarchés. Donc c'est du pain sous cellophane, des gâteaux, des biscuits, des chips, des produits prêts à consommer, des barres chocolatées.
Il y a aussi des savons, des cosmétiques,
même les peintures, on le retrouve vraiment partout. C'est un ingrédient en fait qui coûte peu par rapport à une exploitation d'une matière grasse européenne, parce que localement en fait il n'y a pas de cadre juridique au niveau de l'environnement ni du respect du droit des travailleurs. Donc c'est une façon de produire un produit à peu de coût en fait.
Alors pour que l'on comprenne bien les conséquences de cette monoculture, je vous propose de partir en Amérique du Sud, au Costa Rica. En moins de 10 ans, le Costa Rica est devenu le 4e producteur et le premier exportateur mondial d'ananas. Et en 9 ans, la surface consacrée aux plantations d'ananas a triplé dans le pays. Elle atteint 60 000 hectares, soit quand même 1% de la surface du pays. Isaac Roras travaille au Costa Rica pour les Amis de la Terre et il explique expliquer la situation à Julie Lerat.
Toutes les monocultures posent les mêmes problèmes en fin de compte. Parmi ces problèmes, il y a la pollution de l'eau. Les compagnies utilisent des engrais chimiques de façon massive et rejettent les déchets qu'elles produisent. Elles détournent des fleuves, des rivières, elles contaminent les puits. Et nous en voyons les conséquences directes aujourd'hui, avec les monocultures d'ananas. Sur la façade atlantique du pays, l'exemple le plus frappant, c'est celui des communautés d'El Quero. Elles ont été complètement envahies par les ananas. Depuis 2 ans, les gens ne peuvent plus utiliser l'eau des rivières, des sources, comme ils l'avaient toujours fait, parce qu'elles sont polluées. Et ni le gouvernement, ni les compagnies productrices d'ananas ne proposent de solution. C'est dramatique de voir des mères, des petites filles et des petits garçons en train de bloquer les routes du pays, comme cela s'est passé ces derniers mois, en disant « Nous voulons de l'eau, nous voulons une solution pour pouvoir cuisiner, pour pouvoir nous laver, pour pouvoir boire. » Mais les solutions ne viennent pas. Et cela touche 8 communautés de 1000 à 1500 personnes chacune.
Isaac Rojas, le Costa Rica est aussi connu pour la diversité de sa faune. Est-ce qu'il y a un impact justement sur la faune locale ?
L'impact est très important. Parce que dans le cas des compagnies productrices d'ananas, nous avons constaté l'existence d'une pratique qu'on appelle le tiroir de la mort. En une seule nuit, la compagnie fait creuser des trous énormes dans la terre. Elle fait abattre les arbres et les enterre dans ces trous. Si bien que vous vous réveillez le matin et la forêt qui se trouvait là la veille n'existe plus. C'est tout un habitat qui disparaît pour les animaux. Il existe une photographie connue, prise alors qu'une compagnie bananière avait été autorisée à couper 400 hectares de forêt. Cette photographie a été prise par un photographe japonais. Elle montre un paresseux qui essaie de marcher, mais il est complètement déboussolé parce que sa forêt n'existe plus. Je pense que cela illustre bien le drame de la monoculture. Elle affecte non seulement les communautés et l'eau, mais aussi la faune. Elle détruit la biodiversité. Et pourtant, elle est promue par les politiques gouvernementales, comme c'est le cas actuellement. Ce gouvernement encourage la monoculture et détruit la grande richesse environnementale et culturelle de ce pays.
Emeline Hood, avec cet exemple du Costa Rica, on comprend bien les conséquences de la monoculture des arbres. On voit bien que c'est catastrophique. La réquisition de l'espace, tout d'abord, ça pose un problème, on va dire, déjà au niveau de la forêt. Parce que c'est la forêt d'abord qu'on entame.
Oui, tout à fait. Avant les plantations, il y a de la déforestation. Donc ça, quand on sait que c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, ça a déjà un impact énorme. Après, les plantations, effectivement, sur place, quand on a de la plantation d'eucalyptus, ça, je pense que c'est le plus dramatique au niveau des ressources phréatiques. Ce sont des terres qui, au bout de 30 ans, sont complètement asséchées. Donc, ils sont rendus incultivables. Donc, plus d'agriculture vivrière possible. Donc, pour les populations locales, ça pose un problème très concret.
Parce que c'est des espèces très gourmandes d'eau. Et qui non, donc,
En fait, c'est un arbre à croissance rapide. Ouais. Donc, il a besoin d'énormément d'eau.
Et ça sert à quoi, l'eucalyptus ?
Alors, l'eucalyptus, c'est l'ingrédient premier de la pâte à papier, en fait, à l'heure actuelle.
Alors évidemment, si on parle de forêt, on parle aussi de tous les écosystèmes qui vont avec, hein, la flore, la faune, les insectes et tout ce qu'on trouve dans ces forêts d'origine et qui sont réduits à une espèce.
À une seule espèce, voilà. On perd une diversité végétale et animale absolument incommensurable, surtout qu'on est en train de se rendre compte aussi que c'est une ressource pour la médecine non négligeable. C'est une ressource médicinale pour les populations locales aussi, oui. Et à la place, on se retrouve avec une seule espèce qui ne sert pas d'abri ni à la flore, ni à la faune.
On entendait là dans l'interview d'Isaac Rojas l'histoire de cet animal qui d'un coup savait plus où aller parce qu'il reconnaissait pas la forêt d'où il était originaire.
Oui, donc il y a des gens comme Emmanuel Grundmann, par exemple, qui travaille beaucoup, qui est primatologue. Et qui s'intéressait énormément en fait à la déforestation. Et puis parce que l'habitat des grands singes disparaissait. Et puis très rapidement, elle s'est retrouvée aussi à travailler sur les plantations parce que le problème était toujours le même, c'est-à-dire que l'espace de vie disparaissait.
Alors cette pratique a aussi des conséquences, on l'entendait dans l'interview, désastreuses pour les populations parce que justement ça détruit d'abord leurs ressources locales. Là, on entendait ces femmes et ces enfants qui réclamaient de l'eau.
Oui, de l'eau à manger. Enfin, ce sont les besoins essentiels de l'être humain qui sont complètement bafoués. Oui.
Et puis quelquefois, des luttes très difficiles, voire dangereuses. Hein. Puis quand il y a une multinationale qui a décidé d'accaparer une terre pour planter ses arbres, les populations n'ont pas trop leur mot à dire. Il y a beaucoup de conflits dans le monde.
Voilà, le grand problème en fait de tous ces pays du Sud, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de cadre juridique, il n'y a pas de droit de l'environnement, il n'y a pas de droit des travailleurs, et les droits humains sont la plupart du temps bafoués. Donc il est à peu près permis de faire tout et n'importe quoi. C'est la rentabilité économique qui passe en premier, avant tout.
Avec tous les désastres qui suivent, quand on a des énormes exploitations comme ça, on n'a pas beaucoup d'autres options si on veut travailler ailleurs. Hein, toute la forêt a été détruite, donc ça a aussi par exemple des impacts sur l'emploi.
Oui, alors même en termes d'emploi, finalement, on se rend compte aussi que ce n'est pas du tout bénéfique non plus, parce que ce sont des exploitations gigantesques qui sont énormément industrialisées et mécanisées, donc il y a très très peu d'emplois créés sur place.
Ouais, vous dites que une machine prend la place de 5 hommes, donc on comprend bien que en fait, en gros,
Alors, en plus, associé à ça, il y a le problème de ces machines qui sont très lourdes, qui provoquent l'érosion des sols. Donc, non seulement
les sols. Parce que ces machines, elles servent à quoi? À planter, à couper les arbres,
c'est ça? À couper les arbres, ouais. À les transporter. Mmh. Donc ça affaisse les sols.
On fait des routes.
Voilà, on coupe encore plus d'arbres, on fait des routes. Ça affaisse les sols. Donc ce sont des terres qui sont déjà déshydratées, qui sont acidifiées par l'eucalyptus. Et je pense que le problème d'érosion des sols, on en entend très très peu parler à l'heure actuelle, mais ça va être le prochain problème qui va nous tomber dessus parce que c'est ce qui nous permet de manger.
Mais oui, à terme, ça va poser un problème sur toute cette réserve alimentaire là, mondiale. C'est la grande préoccupation, hein, des objectifs du millénaire.
Oui, puis enfin, il y a un an, il y a deux ans, on a quand même eu des émeutes de la faim qui se sont répandues comme une traînée de poudre partout dans les pays du Sud. Donc le problème, il est déjà très précisément présent. Et ce qui est assez inquiétant, c'est qu'on a des organismes comme la Banque européenne d'investissement qui financent et qui prêtent de l'argent pour des projets de plantation, pour des projets d'usines de pâte à papier.
Parce que il faut rappeler ce que vous dites dans votre rapport aussi, c'est que ces plantations sur des milliers d'hectares de monoculture sont considérées comme des forêts, et c'est là où c'est extrêmement dangereux.
Oui, exactement. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on les conçoit comme des puits de carbone. Parce que un arbre qui pousse vite est un arbre qui absorbe énormément de CO2. Donc on a cette idéologie du stockage de carbone qui est en train de se répandre et qui fait partie du protocole de Kyoto. Il y a un mécanisme notamment qu'on essaie vraiment de faire comprendre qui est très dangereux, qui s'appelle le mécanisme de développement propre, qui participe justement à compter les plantations en tant que forêt. Mais on est très clair là-dessus, ce ne sont pas des forêts.
Oui, quand on voit
le bilan environnemental et social est tout à fait différent de celui d'une forêt primaire.
Quand on voit plein de fois le même arbre dans une forêt, c'est que c'est pas une forêt.
Voilà, mais visiblement pour certaines personnes, ça l'est.
Fire it burning me. I heard it burning, I heard it choking. Fire it burning me. And she bawling, hallelujah, hallelujah. And she bawling, hallelujah, hallelujah. Me Lord, every night that she go to bed a lot, fire keep burning she. Every night that she go to bed a lot, fire keep burning she. And keep ballin', hole la la, I'm a man lad, hole la la, hole la la. Me lad, no fire in the back and fire in the front. Fire it burning she. No fire in the back and fire in the front. Fire it burning she. And keep ballin', hole la la, hole la la. And keep ballin'.
Écoutez, c'est pas du vent sur RFI qui s'intéresse aujourd'hui à cette pratique qui prend de l'ampleur dans le monde et plus particulièrement dans les pays du Sud, la monoculture d'arbres. C'est aujourd'hui la journée de mobilisation internationale contre cette pratique. On vient d'évoquer ses conséquences dévastatrices, mais comment faire pour enrayer ce phénomène? Nous vous proposons d'écouter le témoignage tout d'abord de Ricardo Carrère. Il est en Uruguay et coordonne le World Red Forest Movement qui soutient des populations pour lutter contre ce phénomène. Il répond à Julie Lerat.
À niveau local,
au niveau local, ce qui se passe, c'est que quand les plantations s'installent, que ce soit en Uruguay, en Argentine, au Chili, en Afrique du Sud, en Thaïlande, en Indonésie, au Swaziland, quel que soit l'endroit où elles s'installent, elles ont un impact sur les communautés locales et sur l'environnement. Et cet impact pousse les communautés à s'opposer à l'avancée des plantations. Ce que nous faisons, c'est identifier les endroits où surgissent des conflits. Nous apportons alors notre soutien à ces communautés qui se battent contre les monocultures. Nous ne suscitons pas ces combats, mais nous les soutenons lorsqu'ils émergent. Au niveau global, nous portons tous ces exemples concrets devant des organisations des Nations Unies, comme la Convention sur la biodiversité, la Convention sur le changement climatique, et à tous les niveaux où l'on discute de ce qui se passe au niveau local à cause de l'avancée des plantations.
Con lo que ocurre a nivel local con el avance de las plantaciones.
au niveau local, ça veut dire que si une personne, si une communauté rencontre un problème avec ses monocultures, cette communauté peut vous appeler et vous leur venez en aide.
Nous avons un bulletin électronique mensuel et un site web. Quand nous recevons une plainte, nous écrivons un article et nous le diffusons largement. C'est le minimum que nous faisons. Dans certains cas, nous nous rendons directement sur place ou nous lançons une enquête. Par exemple, je peux citer un cas qui concerne la France, celui des plantations de caoutchouc de l'entreprise Michelin au Nigeria. Nous sommes allés voir ce qui se passait sur place et nous avons constaté l'impact de ces plantations sur les femmes en particulier. Nous avons organisé un atelier pour récolter des témoignages qui ont ensuite été largement diffusés en France et à travers le monde. Et nous insistons particulièrement sur ce cas en ce 21 septembre, journée mondiale contre la monoculture des arbres.
Sur votre site internet, vous dénoncez le harcèlement et les persécutions dont sont victimes ceux qui luttent contre ces monocultures. C'est vraiment un combat dangereux. Comment ça se passe ?
Depende del país eso. En algunos países, como en caso de mi país, Uruguay, no es una situación peligrosa.
Cela dépend du pays. Il y a des pays comme le mien, l'Uruguay, où ce n'est pas dangereux. Mais je suis allé notamment au Cameroun, où j'ai visité les plantations de palmiers à huile et de caoutchouc. Les personnes employées par les compagnies vivent dans des conditions terribles, mais elles ne peuvent pas s'organiser en syndicat parce que leurs actions sont immédiatement réprimées. Donc la situation varie en fonction des pays, mais dans tous les cas, ces plantations génèrent une résistance qui va grandissant dans le monde, avec l'avancée des plantations, parce que leur impact ne cesse d'empirer.
Et selon vous, quels ont été vos principaux succès ?
Notre combat a commencé au milieu des années 80. À l'époque, les plantations étaient perçues de manière très positive. On prenait cela pour de la reforestation, on pensait que c'était bon pour l'environnement. Cette perception très positive des plantations rendait notre combat très difficile. Mais je pense que nous sommes parvenus à retourner complètement la situation et qu'aujourd'hui, les multinationales sont sur la défensive. Elles sont obligées de se confronter, partout dans le monde, à des gens qui se lèvent pour dire « ce que vous plantez là, ce ne sont pas des forêts ». Et pour ces compagnies, il est de plus en plus difficile d'avancer.
Emeline, on entend bien à travers ce témoignage que c'est difficile, voire dangereux, de s'opposer aux grandes multinationales.
Oui, ben on a des cas très concrets au Cameroun, par exemple, où tout de suite les rébellions ont été réprimées de façon assez violente. On a fait pression sur les familles des travailleurs pour enrayer le mouvement tout de suite. Donc il y a des pays où ça pose, où c'est vraiment très difficile d'arriver à avoir une action concrète finalement.
Et en même temps, il faut quand même continuer la mobilisation, puisqu'il y a quand même des exemples de réussite. Plus on en parle, plus on se dit que, ben voilà, on peut essayer d'inverser la tendance.
Voilà, exactement. Donc il y a un audit qui a été fait, par exemple, sur des projets de plantation de palmiers à huile en Indonésie. Et là, on a eu un écho de la banque, d'une banque privée en fait d'investissement, mais qui travaille avec la Banque mondiale et qui a décidé de se retirer des projets de financement.
Comme quoi, quand voilà, on se mobilise, quelquefois, ça peut porter ses fruits. Mmh. Le problème, c'est que les consommateurs des pays du Nord, et on le disait au début de l'émission, seraient peut-être prêts à réagir, mais ils ne sont pas informés souvent, ils n'ont pas l'information. Alors justement, on est en ligne avec nous, Jean-Christophe Van de Velde, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'association Résistance à l'agression publicitaire. Alors, vous participez à cette journée de mobilisation pour dénoncer notamment le gâchis du papier à travers la publicité, parce que c'est lié. Hein. Le papier, on le disait tout à l'heure, est fait avec l'eucalyptus, qui est donc planté massivement dans les pays du Sud.
Ouais. Tout à fait. Ce papier sert entre autres à faire des prospectus publicitaires ou des journaux gratuits qu'on reçoit souvent dans nos boîtes aux lettres sans le demander. Et donc voilà, un des moyens simples et pas très dangereux justement par rapport à ce qu'on vient d'entendre là dans les pays du Sud. Chez nous, c'est de, par exemple, refuser les prospectus si on n'en a pas besoin ou pas envie, notamment au moyen d'un autocollant anti-publicitaire qu'on peut apposer sur sa boîte aux lettres.
Parce que les chiffres sont très impressionnants, hein ?
Oui, tout à fait. C'est à peu près 40 kilos, en fait, par foyer par an, dans chaque boîte aux lettres. Ce qui fait en tout à peu près 800 000, 900 000 tonnes de papier publicitaire. Donc, à traiter, à recycler aussi, parce qu'après, il y a aussi ça, il y a aussi beaucoup d'énergie qui est consommée dans le traitement et le recyclage de ces papiers. Si les Français, en tout cas, si une partie des Français décidait de ne plus recevoir de papier publicitaire, ben on pourrait pourrait déjà diminuer la pression justement issue de ces monocultures, parce qu'il y a à peu près entre un quart et un tiers des ingrédients de ces prospectus qui viennent des plantations en monoculture.
Vous dites que si 5% des Français refusaient la publicité, par exemple, ça serait 40 000 arbres de préservés.
Ça serait 40 000, l'équivalent de 40 000 arbres de préservés. Donc 40 000 arbres qu'on ne devrait pas planter en monoculture, puisque ici, ce qu'on essaye de faire, c'est de justement qu'il y ait moins de monoculture d'arbres. Donc ça serait 40 000 arbres qu'on ne devrait pas planter en monoculture, avec toutes les conséquences que ça a, comme on vient d'en parler.
En même temps, c'est très difficile de changer les habitudes. Là, c'est pareil, c'est se battre contre des grosses multinationales au niveau français.
Oui, mais vous savez, lorsque l'autocollant Stop Pub du ministère de l'écologie est sorti en 2004, il y a eu une énorme demande de la part des Français. Il y a une étude qui a été faite d'évaluation du nombre de foyers qui ont imposé l'autocollant. Il y a à peu près 15% des boîtes aux lettres maintenant qui sont munies de cet autocollant. Donc 15% des foyers français, ce qui est pas mal du tout. En sachant qu'il y a eu très peu de communication autour de l'existence de cet autocollant. Donc, par le bouche à oreille, par l'exemple des voisins qui mettent l'autocollant, ça peut avoir des effets. Le problème, c'est que cet autocollant n'a pas de valeur réglementaire, c'est-à-dire que les distributeurs ne sont pas obligés de le respecter. Donc, on peut très bien mettre un autocollant et quand même continuer à recevoir des prospectus. Donc, nous, c'est notre revendication principale, c'est que l'autocollant est fort de loi afin que les distributeurs soient obligés de le respecter.
Merci Jean-Christophe Van de Velde pour votre témoignage.
Émile, quels sont les produits dont il faut se méfier alors?
Alors, une chose vraiment très simple que tout le monde peut faire, c'est limiter sa consommation de papier. Je pense qu'à l'heure actuelle où tout le monde a des imprimantes pour imprimer ses photos de week-end, de vacances, ce sont des choses toutes bêtes, mais imprimer recto verso aussi. Il y a des gestes comme ça dans ces...
Maintenant, je regarde sous mes feuilles.
Si vous êtes imprimé recto verso, attention.
Si, regardez celle-là, elle est imprimée recto verso. Fais attention dans l'émission.
Mais voilà, il y a des gestes vraiment simples qui, multipliés par le nombre de personnes, ont des conséquences gigantesque. Et ça, on l'oublie souvent, ça paraît d'être une goutte d'eau dans l'océan, mais ça, c'est vraiment important.
Et alors, il faut peut-être regarder aussi l'étiquette des produits qu'on achète.
Alors, sur le papier, c'est un petit peu compliqué parce que...
Non, pas sur le papier, mais je pense pour d'autres produits. Vous parliez par exemple des palmiers à huile qui font des ravages, les plantations de palmiers à huile en Indonésie.
Alors ça, la solution, j'invite vraiment les consommateurs à regarder la liste des ingrédients, des produits qu'ils achètent. Ils vont se rendre compte qu'il y a de l'huile de palme vraiment partout. Donc, à moins de faire ses courses sur le marché, d'acheter des fruits, des légumes frais...
Ou de faire son pain soi-même.
Voilà. Vous allez... faut acheter le pain chez le boulanger, quoi, mais pas au supermarché.
Ouais, c'est très difficile de se rendre compte qu'effectivement le produit qu'on achète a des conséquences terribles à l'autre bout du monde.
Il faut se poser la question en fait. Je pense que c'est une démarche que les gens n'ont pas encore intégrée, mais qu'il va falloir intégrer à l'avenir. C'est vraiment se demander d'où vient le produit que j'achète, comment il a été fait, qu'est-ce que ça implique dans la vie quotidienne des gens qui le produisent.
Alors on va peut-être être désagréable dans cette émission, mais est-ce qu'il y a des marques qu'il faut carrément bannir de sa consommation qui seraient directement liées à la monoculture?
Alors sur la question du papier, moi je dirais que Carrefour, Auchan, ce sont vraiment des
gros méchants,
des grosses entreprises. C'est-à-dire ils sont soumis à une taxe sur les impressions des publicités qui nous distribuent dans nos boîtes aux lettres. Et cette taxe, elle est de 35 euros la tonne. Quand on est Carrefour ou Auchan, 35 euros la tonne, c'est peanuts dans le budget.
Bon, on leur demandera de venir s'expliquer.
Oui, on leur donnera un droit de réponse. Alors, l'une des inquiétudes aussi, c'est que la monoculture d'arbres soit accentuée par la lutte contre le réchauffement climatique.
Oui, donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le mécanisme de développement propre, avec cette idéologie de la compensation de carbone, c'est-à-dire qu'une entreprise ou un État du Nord qui a envie de continuer à polluer, mais qui n'a pas envie d'investir dans des énergies un peu plus propres, va se dire « je vais pouvoir compenser avec un projet de plantation d'arbres quelque part dans le Sud ». Voilà, et sous couvert, on appelle ça un peu du greenwashing, c'est-à-dire que sous couvert de quelque chose de vert, de végétal...
Alors c'est un peu une dérive des mécanismes de développement propre qui était une idée au départ qui avait été créée pour encourager justement le soutien des pays du Nord aux pays du Sud, pour lutter contre le climat justement.
En fait,
les pays du Nord investissaient dans le Sud, à ce moment-là, ils pouvaient dégager un crédit carbone.
L'idée c'était de financer un transfert de technologie en fait. Mais là-dedans, on a mis aussi les projets forestiers. Et le World Rainforest Movement se bat par exemple pour retirer les projets forestiers du mécanisme.
Très rapidement, Émilie Neude, si on veut soutenir cette journée, comment est-ce qu'on fait ?
Bah, faut signer les pétitions qu'on met en ligne parfois, alors soit le RAP, soit les Amis de la Terre, sur le soutien par exemple, voilà, sur le site internet, sur le soutien.
Donnez l'adresse.
C'est www.amis.org.
D'accord. Voilà. Voilà, bah écoutez, on peut avoir aussi beaucoup d'informations sur votre site. Merci Emeline Eudes. Et oui, ça sonne dans C'est pas du vent, parce qu'à la veille du sommet des chefs d'État convoqué à New York par le secrétaire général des Nations Unies pour mettre en place une stratégie de lutte contre le réchauffement climatique, l'opération Flash Mob, qui aura lieu dans de nombreux pays, consiste à faire sonner vos réveils, vos téléphones, bref, tout ce que vous avez sous la main entre 10h18 et 10h22, temps universel, soit dans 18 minutes, pour signaler que vous attendez justement une mobilisation forte des chefs d'État sur cette question.
C'est pas du vent, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, nous parlerons de l'observation des océans à l'occasion d'un colloque international qui se déroule sur ce thème à Venise. À demain, même planète.
Même heure.